Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mboujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois encore, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. L'ambassade sud-coréenne de Kinshasa a exprimé la semaine dernière ses préoccupations quant à la tenue des élections générales de décembre en République démocratique du Congo, mettant en garde contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme coréenne. En réaction, Corneille Nangaa, président de la CENI, affirme que seul le gouvernement congolais pourrait mieux apprécier l'usage national de ce produit issu de Corée. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 09 97 06 63 30 ou encore le 09 97 06 89 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 4000 à avoir lu et commenté ces sujets. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos débats. Héritier Sidiakala est à la mise en onde de cette émission. Mise en onde par Héritier Sidiakala et réalisée par Pierrot et la Meji, qui en même temps sous les standards de ce programme, supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons dans ces studios Jérôme Bonceau qui est avec nous donc pour débattre de cette question. Bonjour Monsieur Bonceau.
Bonjour cher ami, bonjour nombreux auditeurs de la Radio de la Paix.
Alors vous êtes président de la l'INELIT, attendez par là, la Ligue Nationale pour les élections libres et transparentes. Vous venez d'ailleurs de publier un ouvrage intitulé « Stratégie pour la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir issu des élections démocratiques ». Mais parlons de la machine à voter, ça suscite des débats. Et aussi, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ça fait une année, en tout cas maintenant plus de 7 mois, où on en parle. Les politiques s'en mêlent et même la population, finalement, qui était sensibilisée, ne sait plus à quel sein s'est vouée. La machine a voté et aujourd'hui, l'ambassade sud-coréenne de Kinshasa a exprimé, au fait, la semaine dernière, ses préoccupations quant à la tenue des élections en général, mettant en garde contre l'utilisation. Que cela vous inspire, cette mise en garde?
Oui, avant de répondre à cette mise en garde de l'ambassadeur, tout en sachant que ce n'est pas l'ambassadeur de faire la mise en garde en ce qui concerne le processus électoral d'un pays, d'un État indépendant et un État souverain, du moins ce sont les conseils que l'ambassadeur aurait donné que de mise en garde. Lorsque nous parlons de la controverse de la machine à voter, tout d'abord la machine à voter c'est quoi? C'est un support, un outil informatique qui est introduit pour le vote. Et cet outil informatique est équipé d'un caméra, d'un scanner et d'un écran tactile. Mais c'est à travers cet outil qu'on va faire le vote. Mais cet outil a des avantages. Et nous pouvons épingler, entre autres, la réduction de 200 jours à 504 jours, de 504 jours à 200 jours. Nous avons l'économie de plus de 30 millions, ce que nous voulons s'entendre. Nous avons la possibilité d'organiser tous les trois scrutins le même jour, députation nationale, députation provinciale, élection présidentielle. Nous avons fait affaire des économies d'autres financiers, il y a fiabilité des transparences et ainsi de suite, mais ça se passe que cette machine répond à trois défis majeurs. Premier défi, défi financier, défi technique et défi politique. Et à cela, la machine elle-même est comme une innovation. Tout c'est comme avantage, une machine est une innovation, l'opinion et tout le monde a peur de l'innovation parce qu'on ne sait pas le lendemain. Et quel est le désavantage de la machine à voter? Le désavantage de cette machine qui intervient aujourd'hui, c'est la guerre commerciale entre le fournisseur et le producteur de ces machines à voter. En 2006-2005, 2006-2011, nous avons eu des machines à voter d'une firme belge qu'on appelait ZTS. Et cette machine à voter avait montré ses limites. Certains compatriotes belges en Belgique avaient porté plainte contre la firme. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une nouvelle firme sud-coréenne qu'on appelle Miru System. Et Miru System qui gagne le marché.
Et l'autorité coréenne déclare aussi que c'est de l'aventure.
Oui. Et cette machine, elle vient de Corée du Sud. Il y a maintenant le problème d'intérêt, l'intérêt d'ordre commercial qui quitte l'espace de l'Europe vers l'Asie. Il y a une guerre très tranchée. Et c'est là où on implique certains entre nous et le partenaire extérieur. Parce que l'ambassadeur sud-coréen a reconnu qu'il subit des pressions pour qu'il puisse agir ainsi. Et maintenant, l'autre désavantage de cette machine, c'est quoi? C'est, il y a
ça,
un
ça,
problème.
C'est une déclaration en off, hein, parce que ce qui était officiel à ON, l'ambassadeur mettait en garde contre l'utilisation des machines à voter fabriquées par une firme coréenne. Mais selon une source aussi, l'État coréen aurait engagé des poursuites contre cette firme qui a fourni d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est vrai,
oui,
si vous avez cette information.
C'est ce que je vous dis. Nous avons connu cela avec les ZTS. Il y a une plainte qui a été déposée auprès de certains justiciers belges parce que ZTS avait monté ses limites et ses capacités. Si aujourd'hui, au niveau de la Corée du Sud, on porte aussi plainte parce que ce sont peut-être ces firmes qui, au lieu d'offrir un travail de qualité, ils se lancent beaucoup plus dans le business. Mais j'ajoute encore une espèce en ce qui concerne le désavantage de cette machine. C'est quoi? La machine introduit maintenant un problème déficit de communication. Parce que avant de lancer la machine, ça devait être précédé par la communication et la sensibilisation pour donner un contenu technique, un contenu logistique, un contenu politique à cette machine à voter. Et c'est de là où maintenant il y a plusieurs entendements. Les uns parlent machine à voter, ça veut dire ce n'est pas l'homme qui vote, l'électeur ce n'est pas l'homme, nous la femme, c'est la machine. Les autres disent on devrait l'appeler machine pour voter à ce moment-là, c'est l'électeur qui vote. Et maintenant les autres ont dit non, c'est une machine, c'est un vote manuel assisté par l'ordinateur, assisté par la machine à voter. Vous voyez cette cacophonie de linguistique, d'ordre terminologique, et ça crée de confusion. C'est ça qui fait que étant donné que la sensibilité devait précéder l'outil qu'on va utiliser. Parce que les élections, même en 2006-2011, nous avons utilisé la machine, c'est-à-dire l'électronique. Nous avons fait les opérations d'enrôlement, d'enregistrement des candidats par la machine. Nous avons fait l'enregistrement des candidats, des électeurs, et des candidats à la députation nationale et provinciale et l'élection présidentielle par la machine. Publication des résultats par la machine. Mais maintenant, la machine pose problème parce que nous nous trouvons dans un contexte agité, dans un contexte de crise de confiance entre les acteurs politiques, de crise de confiance entre les partenaires.
Monsieur Mbosso, on sait que la machine a voté, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, disons, on en déplaise à ceux qui veulent peut-être changer l'appellation, parce que dès l'origine, même les pays, d'autres pays qui ont utilisé cette machine à voter, il s'agit réellement de vote électronique. La Belgique, la France, le Pays-Bas, aujourd'hui, c'est vrai, ces machines ont montré quand même leurs limites aussi dans ces pays. Les Pays-Bas d'ailleurs a renoncé, la France, il y a eu beaucoup de difficultés, la Belgique, n'en parlons pas. Et aujourd'hui, avec les débats entre la Russie et les États-Unis sur les piratages, ben alors, bref, même les politiques ou encore l'ensemble de la population semblent ne pas cautionner ça par rapport au moment, comme vous l'avez dit, les contextes. Et pourquoi ne pas attendre au moment où il n'y aura pas crise? Peut-être que tout le monde se mette d'accord à ce niveau.
Moi, je crois que ce qu'il faut faire à l'heure qu'il est, à 8 mois qui nous restent pour la tenue des élections en date du 23 décembre 2018, c'est de reconstruire la confiance autour de cet outil informatique. La machine, c'est comme une calculatrice. Moi, je parle ici en tant que scientifique, en tant qu'expert. Je ne suis pas pro-machine ou contre-machine, mais je donne les informations. Ici, la machine, on peut l'encadrer. Comment? Les uns parlent, quand nous parlons, la CENCO qui parle certification, qui n'est pas tellement un terme technique, mais c'est l'audit de la machine. La machine, on doit l'auditer. Auditer les logiciels qui est conçu. Auditer la programmation de cette machine. Une fois cette opération terminée, on s'approprie de cette machine et on y va. Moi, j'étais dans les premières élections multinationales en Afrique du Sud. Le blanc sud-africain avait piégé toutes leurs machines. Mais c'est par la clairvoyance de l'opinion sud-africaine que néerlandais a pu découvrir que les machines étaient piégées et on a pris toutes les machines, on les a auditées, on a dégagé les logiciels qui étaient déjà qui construisait déjà un piège et on a vu la forêt, on est allé de l'avant. Mais si aujourd'hui nous butons seulement au niveau du débat du refus de la machine, nous proposons quelle voie? Et si nous proposons la voie traditionnelle, qui consiste à laisser que la CENI puisse
à papier,
et il y a, on va se trouver autant de tonnes de commandes. À l'heure qu'il est, est-ce qu'on va déjà passer la commande? Ça va nous faire être livré à quel moment? À l'heure qu'il est. C'est le facteur temps. Donc, ici, dans cette controverse.
Est-ce que Corneille Nanga est d'avis qu'il va falloir certifier ces machines par des experts? Comme l'ont souhaité quasiment une bonne partie de politiques. Est-ce qu'il est d'accord?
Non, c'est pas. Non, s'il vous plaît, on ne peut pas demander s'il est d'accord, non. Si tel est le consensus dégagé entre la classe politique, entre les partis prenants au procès électoral, on y va. Parce que la CENI, si
parce que dans les deux dialogues, on n'avait pas parlé des machines à voter. La machine à voter est arrivée et post-dialogue. Donc, c'est venu après dialogue. Donc, il n'y a pas un cadre légal qui définit tout ça.
Ici, la CENI semblerait utiliser ça comme un outil, comme une calculatrice, comme le premier qu'on peut utiliser quand même. Mais maintenant, la confusion, le débat, c'est là au niveau de
la
transparence de cet outil.
Voilà.
C'est ce déficit de transparence qui devait résister dans la communication entre la CENI, dans la vulgarisation entre la CENI et la population. Les machines et autres devaient précéder ce débat.
Merci beaucoup, Jérôme Bosso. On va revenir à vous. Le temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous parlons de la machine à voter comme un outil des votes aujourd'hui. En République démocratique du Congo, 09 97 06 63 30 ou encore le 09 97 06 49 69 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour Franck.
Bonjour mon ami Gère, bonjour à l'invité, bonjour aux amis qui vont s'exprimer après moi.
Alors, à en croire tous les débats autour de cette machine, on conclut que les uns et les autres redoutent au fait qu'il y ait effectivement la fraude dans les scrutins ou lors des scrutins. Parce que la question de la sécurité et de la fiabilité ne se règle pas, en tout cas si vite, hein, à en croire les débats que nous suivons de près. Est-ce que vous partagez cet avis, Franck?
Merci pour la confiance pour le débat. Je crois que l'invité a dit quelque chose qui m'a aussi interpellé. Je trouve que de nos jours, nous sommes au XXIe siècle, on ne peut plus ignorer les innovations techniques que nous apporte la science par rapport à la vie pratique et aussi par rapport à l'organisation de ces scrutins qui n'est aussi que l'une des expressions de la vie pratique. On ne peut pas ignorer tout ça parce que nous savons que la science évolue et la science est en train de faciliter certaines situations qui pouvaient être plus compliquées il y a des décennies, il y a des siècles. Mais seulement par rapport à cette machine et par rapport à son usage presque imposé par un groupe d'individus, moi personnellement, je trouve que c'est comme si on a sélectionné un arbitre pour arbitrer un match de football pour une certaine compétition. Et quand on vous sélectionne comme arbitre, il y a déjà des règles bien connues, bien expérimentées et bien acceptées par les deux camps. Et on ne peut arbitrer que par rapport à ces règles qui sont déjà bien connues, expérimentées et connues par les deux camps. Mais seulement par rapport au choix de Nanga, il veut maintenant imposer ces règles de jeu qui ne sont connues que par lui-même et aussi par l'équipe adverse à qui il pense apporter un certain nombre de faveurs. Et c'est alors que c'est son intransigeance qui étonne tout le monde, parce que des gens sont en train de lui faire voir qu'en dépit de certains atouts techniques, l'usage de la machine peut encore apporter beaucoup de problèmes. Ce qui surprend, c'est son intransigeance de dire c'est seulement la machine, sans machine, il n'y aura pas d'élection. Donc on se demande maintenant pourquoi M. Nanga se montre intransigeant, je dirais même arrogant, jusqu'à ce niveau-là, à tel point qu'il veut imposer cette machine comme l'unique alternative. ça étonne et ça ne peut plus nous étonner si nous devons nous référer à ce qui s'était dit lors de sa fameuse rencontre avec ses amis de la majorité à l'hôtel du fleuve. Si vraiment il veut rendre de bons services à la nation congolaise, qu'il écoute les uns et les autres et qu'il ne prenne pas seulement des options qui seraient encore plus fatales.
Merci beaucoup,
pour la RDC de demain.
Merci beaucoup, Franck.
Les gens qui ont expérimenté la machine nous déconseillent, mais lui tient mordicus, ça donne à penser.
Merci beaucoup, Franck. Pour vous, vous estimez qu'on ne peut pas négliger certes des innovations que nous apporte la science qui évolue et qui facilite en tout cas, c'est des temps, beaucoup de choses. Et l'utilisation de cette machine, selon vous, en tout cas, est imposée par un groupe d'individus en complicité avec Nanga qui reste d'ailleurs quant à ce intransigeant. Merci beaucoup. Jean de Kikuit, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe de Parole aux auditeurs.
Et que pensez-vous?
Oui, je crois que nous sommes au 21e siècle. J'abonde dans la même idée que mon ami Franck hier à Vienne. Personne ne résiste à cette innovation, mais les temps que la CENI vient pour nous brandir cette machine, je crois que le moment n'est pas favorable. Ma mère qui est au village, je crois même les téléphones jusqu'à aujourd'hui ne sait pas manier les téléphones. Alors je crois qu'on devrait mettre un temps. Parce que cette machine à voter n'est ni une machine à voter pour l'opposition, ni une machine à voter pour la majorité. Mais la machine doit nous faciliter, il faut voir les temps. Le vote lui-même pose déjà des problèmes. Si on amène encore des stratagèmes pour que les Congolais ne votent pas à l'aise, je crois là ça ne marche pas.
Donc, je me pose toujours Jean, parce que vous c'est selon, j'ai vu quand même dans les téléprompteurs qu'on me signale que vous êtes quand même de la diaspora, vous êtes aussi politique. En Europe, en tout cas sous d'autres cieux, on tend vers, au fait, l'abandon total de ces systèmes de vote électronique parce que plusieurs experts ont montré combien ces machines ont accusé parfois de faiblesses. Que pensez-vous, vous personnellement, de la diaspora, vous qui avez vécu cette expérience aussi?
Pour plus de précision, je suis ni de la diaspora, je ne suis ni politique, je suis un évangéliste dans une église de réveil, je vis à Kikuit.
Allez-y. Je crois que c'est... Okay. C'est... Ou peut-être c'est l'auditeur qui va vous suivre après, oui.
Ok, merci. J'étais seulement en train de dire que l'innovation n'est pas mauvaise, mais il faut voir le temps, il faut disposer un temps. Hein? On doit faire voir, donc il faut mobiliser les gens, il faut faire le marketing de cette machine. Et d'ailleurs, l'ambassade sud-coréenne n'est pas n'importe quelle ambassade. Hein? C'est parmi les ambassades qui connaissent la matière de la machine. Et pourquoi on ne peut plus aller avec les votes manuels que nous l'avons, comme nous l'avons fait la fois passée? C'est quoi, c'est important?
Oui, mais quand la centrale électorale insiste pour dire que ce n'est pas un vote électronique, c'est juste une machine à imprimer et les votes se fera à papier, c'est ça que le problème ne se posera pas. À un certain moment, même si on va faire les comptages au niveau de la machine, on le fera aussi en cas de contentieux avec les papiers.
Non, mon ami, le problème c'est que je ne sais pas comprendre comment la CENI peut s'arrêter quand bien même tout le monde dit que ça ne va pas. La CENI doit être indépendante et au service de la population. Je ne sais pas comprendre quand nous disons non, mais la CENI s'entête, mais elle va aller aux élections avec qui?
Merci beaucoup Jean. Étienne, vous êtes à Kananga, la CENI continue à dire qu'il n'y aura pas élection sans machine à voter. Étienne, comment vous réagissez?
Oui, bonjour Monsieur Gère, bonjour notre invité. Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Personnellement, je pense que tous ces cacophonies prouvent qu'il n'y aura pas d'élection le 23 décembre. Comment expliquer? De l'autre côté, l'opposition s'impose pour dire que nous ne pouvons pas accepter cette machine à voter. De l'autre côté, j'ai appris dans le revue de la presse, la radio Capi, l'église catholique aussi semble un peu s'opposer à travers cette machine. De ce côté-là, les ambassades de certains pays font des déclarations qui ne semblent pas nous rassurer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les élections le 23 décembre. Parce que jusque-là, le gouvernement tient à organiser les élections à travers la machine. Donc, le gouvernement n'a pas introduit une autre demande dans un autre pays pour dire que non, fabriquez-nous des bulletins, ceci, cela. S'il arrive qu'on rejette catégoriquement cette machine à voter, messager, quand est-ce qu'on va fabriquer le bulletin? Quand est-ce que ce bulletin va arriver dans le pays? Quand ce bulletin sera distribué dans des territoires? Donc, en conclusion, il n'y aura pas de...
Mais maintenant, quel est le cadre?
Je pense qu'on pourrait rejeter la machine. Lorsqu'on rejette la machine, c'est-à-dire que qu'il n'a pas d'élection.
Donc, vraiment, si je comprends, mal à l'aise. Oui, si je comprends bien, Étienne, pour vous, c'est le moment que le CNSA doit se prononcer, parce que c'est à lui que revient la charge de pouvoir évaluer le processus électoral. Dès lors qu'il y a déjà les avis partagés, les avis qui ne concordent pas entre les politiques et la centrale électorale, je crois que c'est le moment d'élever une option définitive. Sinon, à 8 mois, nous risquons de ne plus avoir les élections au 23 décembre. Étienne.
Non. Nous n'avons pas le CNSA qui devrait se prononcer. Lorsque les gens se sont réjouis à travers les partis politiques, les G7 qui ont été mis à leur droit, ce n'est pas le CNSA. Ça, c'est le gouvernement qui a voulu un peu mettre les trains sur les rails. Hein, on sait comment le pays va. Le CNSA va faire quelle déclaration qui va influencer le gouvernement.
Merci.
On doit être sincère. Hein.
Merci
donc,
beaucoup.
Quand il y a quelque chose qui marche, tous à travers le CNSA, nous n'avons qu'à remercier le gouvernement parce que pas le CNSA.
Voilà. Merci beaucoup, Étienne. Alors, Benito, oui, on parlait peut-être tout à l'heure de la diaspora. C'est vous qui êtes de la diaspora. Benito Okiangoudi, vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui porter aussi quelques critiques par rapport à ces machines à voter utilisées sous notre essieu aujourd'hui on tend vers l'éradication de ces systèmes, en tout cas dans plusieurs pays, que ce soit aux Pays-Bas, en France, en Belgique ou ailleurs, et surtout tout récemment avec les débats après les élections des États-Unis, entre la Russie et les États-Unis.
Alors déjà, merci de me passer la parole et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi. En effet, je suis ici de la diaspora, donc je suis actuellement à Kinshasa. Et vous savez, monsieur, la question qu'on a se poser aujourd'hui, c'est pourquoi monsieur Nanga et la majorité veulent nous amener vers un suicide collectif. Vous savez, ce que monsieur Nanga est en train de faire, c'est du forcing. La Corée du Sud est un pays responsable. En tant qu'État responsable, a pris ses responsabilités, excusez-moi la tautologie, pour dénoncer une machine qui est en train de se faire dans son pays, qui ne répondra pas aux aspirations du peuple congolais. Vous savez, ce vote, c'est l'espoir de tout un peuple. Il ne demande que respect, son choix et alternance à la fin de cette année. Mais M. Nang nous parle de machine à voter. Il a publié un calendrier électoral dans lequel il parle de bulletin de vote. Il nous a dit que, auparavant, que c'était une question d'argent, que le fait d'imprimer plusieurs bulletins, plusieurs partis, ça dérangeait.
Ça écoute,
mais
oui.
Aujourd'hui, avec la loi électorale, ils ont promulgué l'histoire de seuil. Mais la question ne se pose plus. Pourquoi ne pas revenir au bon sens et nous amener avec des élections comme on a toujours l'habitude de faire? Vous savez, même la majorité, certains de la majorité présidentielle dénoncent cette machine. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a un élu de la Lukuma, si je ne me trompe pas, qui a dénoncé cette machine. Le gouvernement coréen ne fait que suivre l'aspiration du peuple congolais. Mais au-delà du peuple congolais, monsieur, vous savez qu'il y a une loi organique dans ce pays.
Oui, mais Benito, vous avez suivi notre invité tout à l'heure qui a parlé d'un intérêt commercial aujourd'hui entre les États-Unis ou encore l'Europe et l'Asie. Il y a tout un débat autour de ça, autour de l'intérêt commercial. Parce que la fois passée, c'était les ETS.
Oui. Par rapport à Nanga et la CENI. Puisque vous savez, comme tout le monde, que cette machine-là, elle coûte 400, elle a déclaré qu'elle achetait à 1500. Donc déjà, l'intérêt commercial est unilatéral. Donc c'est une vaste blague. J'étais en train de vous dire, monsieur, que l'Assemblée plénière, qui est constituée de 13 membres désignés par les partis politiques, l'Assemblée nationale et les sociétés civiles, qui sont l'organe, qui est l'organe de conception, d'orientation, de prendre des décisions et d'évaluation de tout ce qui touche à la CENI, n'a pas siégé en la matière. Il existe même, ça c'est Monsieur Omba, qui est notre délégué à la CENI, de l'UNC à la CENI, qui a déclaré qu'il n'existe pas un contrat formel validé par la plénière de la CENI sur l'achat des machines à voter. Donc, il s'agit bien d'un forcing. Monsieur, je veux...
Oui, rapidement, parce qu'on va...
Par là, en disant... Vous savez, il y a eu d'autres Nanga dans ce pays. L'un est mort sans me dire la vérité et l'autre passe son temps dans les plateaux télé pour avouer qu'il a bâclé les élections de 2011. Il oublie, en oubliant qu'il s'expose à la justice nationale mais aussi internationale, monsieur. Donc, la Corée du Sud n'a fait que répondre aux cris de détresse des Congolais et à refuser d'être complice de ce suicide collectif.
Voilà, merci beaucoup Benito. Alors on va prendre Mangoyo. Mangoyo, vous êtes avec nous à Kinshasa également. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci JR pour la parole m'accordée. Et alors, je salue... Oui, JR.
Vous saluez ?
Je salue, bien sûr, tous ceux qui ont intervenu et ceux qui vont intervenir après moi. Et notre invité aussi.
Alors, quand vous entendez des propos tels que l'utilisation des machines à imprimer le bulletin des votes sans précédent en Afrique mérite un examen approfondi. Ce sont des propos de l'ambassadeur de la France en RDC. Que cela vous inspire?
Moi, je suis technicien. Et ici, je voudrais emboîter le pas à notre frère Franck de Vienne. C'est vrai, nous ne pouvons pas nous passer des évolutions technologiques et de l'évolution de la science. Ça, non. Sinon, nous allons rester en arrière. Ça, c'est vrai. Mais je vous dis ceci. Tout équipement, quelle que soit sa technologie, peut aussi avoir des faiblesses. C'est pourquoi nous parlons en termes techniques, la fiabilité et la viabilité d'une machine. Donc ici, je voudrais attirer l'attention de M. Nang, comme l'a dit Franck. Nanga ne doit pas s'entêter. Vous savez que notre pays a assez souffert. Et nous n'avons plus besoin de continuer à souffrir parce que il y a telle et telle personne ne veut pas écouter les autres. Et Nanga doit comprendre que cette machine, nous ne la rejetons pas comme ça. Nous ne la rejetons pas comme ça parce que nous ne voulons pas. Non. C'est parce que justement, nous voulons avoir des garanties. Vous savez, pendant l'enrôlement, nous avons été témoins dans les bureaux de vote. Il s'est posé des problèmes, par exemple, d'alimentation en carburant pour les machines qu'on utilisait pour l'enrôlement. Or, tout le monde sait les faiblesses de la CENI. Cette machine-là, vous savez, notre pays a des problèmes en énergie électrique. Ça, tout le monde le sait. Dans les fins fonds de notre pays, il se pose cruellement des problèmes en énergie électrique. Alors, ces machines-là, je voudrais poser la question, est-ce qu'il y a une autonomie? Si c'est oui, cette autonomie est de combien d'heures? Ça, c'est la première question que je pose à Nang. Et ensuite, vous savez nos faiblesses ici, on a vu, comme je l'ai dit, dans les bureaux de vote, les bureaux là, quand on faisait les choses l'enrôlement, il y a même des bureaux qui n'ouvraient pas parce qu'il n'y avait pas de carburant.
Voilà, donc si je comprends bien, vous posez le problème de l'énergie qui pourrait aussi être un élément provoquant donc quelques petits soucis. Oui. Merci beaucoup. Oui, rapidement, parce que vous avez pris plus de deux minutes, Mangoyo.
Non, excusez-moi, Gérard, je vais chuter en disant,
oui,
il faut que Nanga écoute les conseils des autres. Par exemple, ce que vient de dire Mbosso ici, très, très important.
Voilà.
Et même pays producteur, la Corée aussi, c'est pays sérieux. Donc, il doit écouter, on doit auditer.
D'accord. Merci. Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo. On revient à vous, Jérôme Bosso. Vous êtes président de l'INALIT, vous avez suivi les uns les autres, c'est vrai. Il y a beaucoup de passion et aussi quelques recadrages. Nous avons suivi Benito, qui est un membre de la diaspora, qui a transmis aussi la réalité de ce que lui a vécu ailleurs. Mais tout le monde, on se rend compte que finalement, il y a une témérité qui ne dit pas son nom du côté de la CENI.
Ici, je salue vraiment les apports de Franck, de Jean, de Kikuit, de notre ami Étienne, de Benito et de Mangoyo. Et tout le monde a le souci. Et tout le monde se situe dans le siècle où nous nous trouvons au 21e siècle. C'est un siècle qui est dominé par la technologie. Donc, qui entend par la technologie? Par l'usage de l'électronique. Parce que quand nous parle de vote électronique, c'est un terme générique. Chacun donne le contenu à ce terme générique. Mais le défaut qui crée, c'est quoi? C'est hésitation dans la communication, dans la présentation de ce nouveau produit en marketing commercial. Il ne suffit pas de produire, il faut être en mesure d'évacuer et de faire consommer le produit au consommateur. Quand le consommateur ne connaît pas encore le produit, il le rejette. Mais le consommateur est convaincu après avoir goûté le produit, après avoir touché le produit et après avoir entendu parler de ce produit. C'est ça qui va bientôt se faire en ce qui concerne M. Chavot. C'est là que nous sommes d'accord, tout le monde a le souci de voir que les élections dans notre pays puisse résoudre les problèmes de crise de légitimité pour qu'on puisse arriver à la tenue des élections apaisées, qui consisterait à la, au respect de la courtoisie électorale. Le perdant présente les félicitations aux gagnants, ainsi de suite, et ça constitue la fête pour nous. Et quand nous parlons aujourd'hui, on ne peut pas dire l'arrogance ou bien de Nanga ou bien d'autres, quand même on n'est pas son avocat, mais lui c'était c'est notre cuisinier, il est là. Quand on est à la cuisine, on a la tête parfois chauffée par le fumé, par le chaleur, ainsi de suite. Il parle, parce que sa mission n'est pas lui qui produit les élections, mais c'est lui qui prépare les élections. Mais il ne le prépare pas seul. Il doit le préparer, il est en train de le préparer avec le Congolais. On ne fait pas les élections pour le Congolais, mais on peut les élections avec le Congolais. Donc là, on voit les amis qui parlent, quand on parle le temps, amis, vous ne voulez pas qu'on ait le temps. Oui, cher ami Jean, vous avez raison, il nous reste 8 mois. Et la capacité d'une nation, la capacité des intellectuels d'un pays comme la République démocratique du Congo, ça ne permet pas de mettre dans le débat, qui est aussi intéressant, mais de proposer des pistes de solutions. Que faire ? Dans 8 mois qui nous restent, demain ça sera 7 mois qui nous restent. Si nous allons tous nous plonger dans ce ping-pong électoral, sur les bases en proposition, et nous contribuons au glissement à ce que la date du 23 décembre pour l'organisation de 3 scrutins à une seule séquence ne serait pas respectée. Et que faire? Et c'est pourquoi nous disons, ne retenons pas ce que l'ambassadeur a dit, elle a dit non, l'ambassadeur a dit, mais il a suggéré. C'est pas l'ambassadeur qui peut faire des
recommandations.
Des leçons à un État souverain. Sous d'autres cieux, on lui donne 48 heures, 24 heures, il part. C'est ce que, quand on respecte la souveraineté, j'ai été dans d'autres États, quand les ambassadeurs étaient intervenus dans les élections de ces pays-là, pays africains, 48 heures, monsieur, vous pliez bagage, vous partez. Donc ici, il nous donne comme conseil qu'à nous maintenant de capitaliser, comment nous pouvons nous en sortir. Fabrication de bulletins, oui. Du point de vue technique, du point de vue planification et la mise en œuvre de ce
plan. Mais ce qui étonne plus d'un, l'ensemble de la communauté internationale, Nikki Haley était ici, après est parti, lorsque il y a eu cette question des machines à voter, les États-Unis se sont prononcés d'ailleurs à travers Nikki Haley au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des États-Unis, pour dire, mais voilà, déconseille la République démocratique du Congo d'utiliser la machine à voter, mais d'aller droit aux élections pour le 23. La Corée entre en danse, et puis la France qui parle d'un exercice sans précédent en Afrique, alors qui mérite un examen approfondi. Dans 8 mois, vous estimez vraiment qu'on peut faire un examen approfondi? Alors, refuser aussi la machine à voter, ça retarderait les choses, ça aurait un impact négatif sur le processus.
Cher ami, nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Les amis, moi qui vous parle, gestionner le monde électoral en Asie, en Amérique, ainsi de suite, on ne peut pas, parce que tel a dit, non, ça ne relève pas. C'est aux Congolais même de décider de faire un choix.
Mais quel est le choix? La population dans l'ensemble.
Si, la population dans l'ensemble.
L'ensemble dit quoi?
La population va aller aux élections.
Vous êtes de la société civile.
La population va aller aux élections.
Avec la machine à voter?
Non, j'ai dit aller aux élections.
Avec la machine à voter?
C'est un outil.
Parce que c'est la question.
C'est un des outils.
Avec la machine à voter?
On peut aller avec la machine ou pas avec la machine. C'est question de lever l'option.
Mais vous, en tant qu'expert, on peut aller aujourd'hui à 8 mois avec la machine à voter ou sans machine à voter?
On peut aller avec la machine à voter, on va s'en sortir en encadrant cette machine, en faisant ce qu'on appelle la certification de machine.
Mais la confiance, audit, la confiance.
Mais c'est là où on va construire la confiance. La confiance.
On peut construire la confiance dans 3 mois ici.
Dans 3 mois, même dans 1 semaine, on peut construire la confiance. La confiance, c'est le résultat d'un consensus.
Et qu'est-ce que vous conseillerez à Nanga?
Pas à Nanga, je conseille aux parties prenantes au processus électoral de dégager, de se mettre d'accord, de se mettre ensemble pour dégager, lever une option. Qui puisse pas retarder
l'option a été déjà levée.
Mais il y a ce qu'on appelle des rectificatifs. Ce qu'on appelle en management, en gestion, introduire des facteurs correctifs. Parce que quand on fait une planification, il y a des ratés et on doit corriger ces ratés-là. Et à ce moment-là, M. Nanga, c'est la CENI. Pendant qu'il ne faut pas individualiser le débat, c'est la Commission électorale nationale indépendante, avec ses parties prenantes, parce que c'est l'émanation du Parlement. Le Parlement veut dire, venez, voilà ce que nous avons arrêté, tel, et mettez ça en exécution. Et parce qu'aujourd'hui, on peut frauder avec la machine. On a toujours fraudé avec la machine. On fraude aussi avec le bulletin. Quel que soit le mot à utiliser, parce que la fraude électorale, ça fait partie de la vie d'un compétiteur, de tout compétiteur, la compétition électorale. Mais c'est question d'avoir des stratégies, comment y arriver. Donc on ne peut pas dire d'emblée c'est la machine qui va continuer à frauder. La fraude est toujours permanente et à toute étape et avec n'importe quel outil.
Mais la responsabilité des uns et des autres à ces niveaux, la responsabilité de la centrale électorale, la responsabilité des acteurs politiques, la responsabilité de la la société civile.
Et la responsabilité de la communauté internationale. Allez-y. Parce qu'elle aussi est en train de faire voir ses intérêts. Et aujourd'hui, nous risquerons et nous tendons vers d'être victimes des intérêts des uns et des autres. Parce que j'étais avec cette communauté internationale, je leur avais posé la question. Avec cette guerre commercial que vous me lancez entre vous, le marché a quitté l'Europe et est parti maintenant du côté Asie. Vous ne voyez pas, vous contribuerez aussi parce qu'ils vont faire un veto. Quand on voit que les machines pour venir, ils vont dire, ils vont bloquer, les avions ne peuvent pas amener, ainsi de suite. C'est pour contribuer à ce que le poste s'arrête. Et qui serait victime?
La population.
C'est la population congolaise. Et c'est pour dire à notre ami qui a parlé d'énergie, la machine a la capacité d'autonomie d'énergie de 48 à 72 heures. Parce que le vote se fait le même jour, plus de 8 heures ou 9 heures de vote. Donc la machine, il faut précharger, ça peut amener à faire ce travail jusqu'au bout.
Alors, on va écouter Nsingi Pouloulou, qui est à Kinshasa, Bondisha Lubumbashi, et Félicien également dans la ville-province de Kinshasa. Alors, Nsingi, bonjour.
Bonjour, merci, messieurs les journalistes à Radio Capi et à nos très chers auditeurs.
Vous avez 2 minutes. Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Vous savez, lors du passage de Nikki Haley ici, l'ambassadeur compte américain a dit, je cite, je regrette du niveau de la classe politique et personne que je viens de raconter en République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'ambassadeur voulait dire que le Congo, c'est un pays où la classe politique est tellement insouciante de la situation misérable de son peuple. Et le peuple aussi, c'est un peuple qui accepte tout. Vous savez, la Bible dit ceci. J'étais établi comme sentinelle, et quand le mal arrive, il faut sonner la clochette pour avertir le peuple. En juin 2017, j'étais à Paris, où j'ai rencontré les groupes qui réfléchissaient sur la machine à voter et mode d'exécution. Dès mon retour, j'avais publié une vidéo avec processeur i30, capable d'enregistrer les données en avance. Mais qui m'avait compris? Personne. 8 mois après, l'opposition et la CENCO sont partis à la CENI pour crédibiliser la machine en question. À qui la faute? Tout ce que moi je peux demander actuellement, que la communauté internationale nous assiste. Parce que je sais que le chef de l'État a promis qu'il va respecter la Constitution. Il ne va pas se représenter aux élections. C'est une chose importante. Et aussi, nous demandons, les députés qui ont reçu mandat auprès de la population, qu'ils voient la situation actuelle et qu'ils méditent. Nous devons aller aux élections. Il faut savoir qu'il n'y aura pas des élections, les élections sans faille. Il y aura toujours. En 2006, nous avons connu des élections. En 2011, nous avons connu des élections. Et comment étaient ces élections? Sans machine à voter, comment étaient ces élections? Avec machine à voter, c'est que nous devons toujours rappeler à la CENI. Parce que quand on parle de la CENI, nous voulons faire croire aux gens que la CENI est égale à la Corneille Nangue. La CENI, c'est une composition de 13 personnes à la tête. 6 membres de la majorité, 4 membres de l'opposition et 3 de la société civile. Donc si vous prenez la société civile qui se dise pour les peuples, vous prenez l'opposition qui se dise pour les peuples, ensemble ils forment déjà 7, c'est majorité par rapport à 6. Alors, qui a dit oui pour la machine à voter? Qui a donné cette idée de la machine à voter? Comment ils sont arrivés là-bas? C'est un complot. Ce sont des dirigeants, la classe politique est prêt à vendre même ses enfants pourvu qu'il reste au pouvoir, pourvu
voilà,
qu'il y ait un poste.
Merci
ils
beaucoup.
Sont pas, ils ne se soucient même pas de la situation de son peuple.
Merci beaucoup. Alors, vous parlez de la situation de la population. On va prendre Bondisha Kietalumbashi. Bondisha, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre contribution
à cette question? À propos de cette fameuse machine, telle qu'on l'a décrit, je vois qu'elle a deux parties importantes. Il y a la première partie qui est avantageuse et la deuxième qui est en fait qui présente des inconvénients. La première partie, quand cette machine sort le bulletin de vote, à partir du moment où on peut mettre ce bulletin de vote dans l'urne, il faudrait qu'on arrête avec cette machine, qu'on ne l'utilise pas à la phase de compilation. Car c'est à ce niveau-là que les hommes de Nanga peuvent tricher. parce que au niveau de la compilation, on peut utiliser de simples calculatrices et non pas la machine à voter. Pourquoi est-ce qu'ils tiennent à utiliser la machine à voter du début à la fin, jusqu'au niveau des compilations? Pourquoi? C'est ce que je peux dire aux opposants, c'est de refuser cette machine au niveau de la compilation des résultats.
Merci.
Ils n'acceptent pas.
Merci beaucoup, Bondiche. Félicien, vous avez la parole.
Ah, bonjour, Gérard. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les hôtels de Radio. Mmh. Quelle
est votre contribution, oui?
Moi, je dis que la réponse de M. Nang à la réaction de, des ambassadeurs respecte une certaine logique, dans la mesure où ce n'est pas l'ambassadeur qui organise les élections ici, et c'est le gouvernement congolais. Et Nang a raison de ce côté-là. Parce que si le gouvernement a prévu de tricher et qu'il a besoin de cette machine pour tricher, et c'est le gouvernement qui a cette responsabilité. Mais si le gouvernement aussi a prévu l'organisation des élections transparentes, crédibles, c'est les problèmes du gouvernement. Donc ça ne concerne pas l'ambassadeur. C'est là qu'il faut attirer l'attention, si Tshisekedi Nang a dit. Donc il a pleinement raison de ce côté-là. Mais le problème, c'est que Nang a... comprend bien ce que les pays déjà civilisés, les pays déjà développés ont dit à propos de votes avec la machine ou électronique ou je ne sais pas quoi. Mais il ne veut pas entendre. Tout le monde dit qu'il ne veut pas entendre. Mais l'ambassadeur a parlé en tant que originaire du pays qui a fabriqué la machine. Il connaît comment ces machines sont fabriquées et comment ça peut créer des problèmes. Il ne veut pas avoir, il veut pas que son pays puisse avoir des problèmes avec le peuple congolais demain pour dire la Corée était complice dans ce qui nous est arrivé. C'est dans ce sens que l'ambassadeur intervient et émet des inquiétudes. Mais le plus grand problème que nous avons dans ce pays, c'est l'élite. Il n'y a pas d'élite. C'est la classe politique qui est médiocre, qui est prêt à vendre tout seulement parce qu'elle est. Ils doivent se retrouver. Ils peuvent être seulement 50 personnes, 100 personnes, 200 personnes, mais quand ils sont au pouvoir, quand ils ont de l'argent, ils sont prêts à tout détruire, que le pays soit vendu, que le pays soit détruit. Et c'est, que c'est ça, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec cette classe politique.
Merci beaucoup,
Félicien. Même M. Mbosso qui vous parle là-bas, son langage-là n'est pas un langage de quelqu'un de la société civile qui épouse les points de vue du peuple. Lui, c'est le point de vue de ceux qui veulent organiser des élections pour les élections, que ça soit bonne, que ça soit mauvaise.
Mais alors, Félicien, oui, alors, Félicien, oui, Félicien, mais à ce niveau, réfuter, récuser la machine à voter, est-ce que vous n'êtes pas d'avis que ça mettra le processus en retard?
Mais ça peut être aussi justement une planification qui a été faite par ceux-là qui organisent les élections. Parce que depuis le départ, quelle est la procédure que nous suivons? C'est de ne pas organiser des élections.
Voilà. Merci beaucoup.
Et peut-être qu'ils pouvaient penser qu'en organisant avec la machine, si le peuple accepte, on triche. Si les refus,
merci beaucoup. Merci beaucoup, Félicien. Alors, on revient à vous. Je crois que il y a des inquiétudes, hein, quant à l'organisation effective de ces élections. Jérôme Bosso, vous êtes expert. Vous avez participé aux élections 2006, 2012, 2011 et aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'il y a déjà des signaux forts que nous tendons réellement vers les élections d'ici au 23 décembre?
Les signaux forts sont là.
Publication des
candidats. Aujourd'hui, on dépose les listes de le projet pour la répartition des sièges au gouvernement. Le gouvernement va déposer au niveau de l'Assemblée nationale et ça va sortir. Et là, il y a un point important épinglé, c'est le respect du timing qui est dans le calendrier électoral fixé par la CENI. Parce que nous avons fait au niveau de la NINET, au niveau de AETA, nous avons fait ce qu'on appelle un baromètre électoral pour voir qui respecte son engagement. Les dates sont là. Il y a des contraintes qui sont là dans le calendrier électoral. La CENI est en train de faire maintenant la part de son contrat. Et le gouvernement aussi, ce qu'il doit faire aussi, la part de contrat, en appliquant ce qu'on appelle le décaissement de fonds, plan de décaissement, qu'il puisse le respecter pour que nous puissions arriver à la date du 23.
Mais quand vous dites que la CENI est en train de respecter, mais quand nous lisons les contraintes, quand nous lisons les activités prévues, il y a, depuis le début du mois de mars, il était prévu dans la carte, disons, de repérer les au niveau de la diaspora avant l'enrôlement des Congolais de l'étranger, il fallait déjà la cartographie pour savoir quels sont les diplomates, disons les sièges diplomatiques où on doit organiser. Mais est-ce que le travail n'est pas encore fait? C'est déjà dans un retard.
Non, l'enrôlement des compatriotes de la diaspora
au mois de juillet
n'aura pas d'impact sur le résultat.
Députation nationale.
Non, si vous voulez, c'est pas sur l'ensemble du territoire, c'est pour l'élection présidentielle. Mm-hmm. Donc, ça ne va pas freiner, on va se rétablir. Ce qui est important ici, c'est le plan de décaissement de fonds du gouvernement vers la CENI, qu'on puisse respecter un versement de 30 à 40 millions de dollars par mois. Le gouvernement vient de verser 22 millions. Plus de 22 millions au mois de mars. Il y a des arriérés de mois de janvier et de février. Le gouvernement va se rattraper. Nous passons à la fin de ce mois d'avril. Il va payer ses arriérés, tout en sachant que le gouvernement avait levé l'option qui ne va pas recourir au financement extérieur. C'est une chose qui vient. Mais ici, notre souci, c'est quoi? Si nous nous battons aujourd'hui sur les machines à voter, ainsi de suite, parce que nous partons d'un handicap. Absence de registre d'état civil, nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas le recensement. Si le recensement était fait après 1984, et qu'on avait ce quota-là, on allait s'en passer des machines à voter.
Si on fait l'état civil, maintenant, on sera toujours en état.
C'est pour les élections prochaines. Mais je voulais dire à monsieur Félicien, ne confondez pas l'engagement d'un homme politique et l'engagement d'un expert électoral. Un expert donne des signaux, donne son point de vue, il essaie de le positiver ou bien le négativer, dans le sens où il voit les choses, si ça ne marche pas. C'est pourquoi nous disons ici, cher ami Félicien, vous avez bien dit que tout est prévu, le gouvernement est prévu de tricher, ainsi de suite. Toutes les parties prenantes au processus électoral. La tricherie électorale, ça devient pour eux une stratégie de conquête de pouvoir pour les uns, une stratégie de conserver le pouvoir pour les autres. Vous n'allez pas indiquer, mais c'est la capacité de nous, témoins, observateurs, de la population, pour encadrer, pour que cette tricherie ne puisse pas passer, pour déjouer ce genre de tricherie. Nous l'allons utiliser, l'ami a parlé, il faut utiliser la deuxième partie, où il faut éviter la compilation. Mais même si au niveau de la première partie qu'on va utiliser la machine, si la faute est là, le problème, le souci, nous avons dit, en amont, il faut auditer le fichier électoral. C'est au niveau des logiciels. Et en aval, c'est l'encadrement de vous quand vous serez dans le bureau de vote, monsieur Félicien, monsieur Bondich, quand vous allez déployer des témoins. Qu'est-ce que nous remarquons le jour de vote? Même le jour de comptage de résultats, les partis politiques qui devaient déployer les témoins. Parce que c'est là où on doit avoir le procès verbal. La machine va nous donner deux types de procès verbal. Il y a le procès verbal électronique et le procès verbal manuel. Et chaque témoin doit s'en procurer, la loi exige. Mais si vous n'avez pas les gens dans le bureau de vote, vous n'avez pas les gens au niveau des centres de compilation, vous allez donner la faute à qui? Donc, mon cher ami, c'est à nous. Nous tous, nous sommes partie prenante au procès électoral. C'est à nous de nous en approprier.
Il faut une surveillance.
Mais il ne faut pas toujours, ni qui a dit, tel ambassadeur a dit, non. Les Congolais ont dit, nous les Congolais nous avons dit, parce que notre procès électoral, c'est pas quelqu'un de sérieux. Aux États-Unis, on a triché les élections avec cyberattaque, avec la Russie. On a vu aucun pays, aucune nation pour dire l'élection de M. Trump était l'élection truquée, ainsi de suite. Personne n'a condamné.
Merci beaucoup.
On a le respect du
Jérôme Bosson, si vous le permettez, on va prendre les deux derniers auditeurs et puis on revient à vous pour la conclusion. Grâce, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Grâce.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
Oui, quelle est votre contribution?
Oui, l'attitude qu'adopte la CENI dans sa façon de travailler risque de provoquer de profonds conflits après les élections. Comment expliquer cette machine à voter est soutenue par la MP au Parlement, bien que retirée de la loi électorale? La CENI était au courant. Au lieu d'apaiser les esprits, la CENI soulève ce même problème de la machine à voter qui a posé beaucoup de problèmes au Parlement. Et la CENI justifie son utilisation par son faible coût. Est-ce que c'est la CENI qui mobilise les fonds pour les élections, alors qu'elle a prévu un plan de déclenchement qui, à ma connaissance, ne pose aucun problème? Si cette raison était fournie par le gouvernement, ça pourrait avoir son sens.
Merci.
Quand la CENI n'est plus indépendante, elle a choisi son camp.
Merci beaucoup, Grâce. Alors, Pacifique, vous nous avez également rejoint. Bonjour, Pacifique, vous êtes à Lubumbashi.
Bon, merci beaucoup. J'ai salué également les auditeurs de la radio de la paix. J'ai dit tout de suite là que je ne suis pas d'accord avec le point de vue de Mbosso. C'est comme s'il est fondé également à la majorité. Sans embâche, je lui dis ça. Les votes électroniques aujourd'hui, GR, c'est une menace pour la démocratie. Ce système est piratable. On peut pirater ça à tout moment. On peut réaliser la puce électronique et remplacer cette puce-là par une autre puce déjà programmée. On peut prêter n'importe quel ordinateur aujourd'hui. Il a parlé de cyberattaque, il en sait quelque chose. Vous en connaissez aussi quelque chose, Edouard Snowden. Aujourd'hui, la CENI ne fait pas écouter les points de vue des uns et des autres. Pourquoi pas s'incorporer déjà à la majorité présidentielle? Pourquoi est-ce que la CENI ne peut pas aussi faire marche arrière dans tout ce que la CENI avait déjà fait? Vous vous rendez compte avec moi, la plateforme de F. Bazaïba avec MNC, UNC, mais ils étaient partis pour la certification de ces mêmes machines à la CENI. Déjà, Nanga lui-même, vous savez les résultats. Donc, on avait donné, le poids à un candidat inconnu qui n'était pas là. C'est pour vous dire que ce n'est pas fiable. Les suicides qu'attendent démocratiques aujourd'hui, vous ne savez que la CENI est en train de vouloir faire. Ce n'est pas possible aujourd'hui que GR.
Merci beaucoup, Pacifique. C'est pas possible. Voilà, merci beaucoup, Pacifique. Alors, on va conclure avec vous, Bosso, parce qu'il nous reste une minute, deux minutes. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut aller aux élections?
Oui.
Avec ou sans machine à voter?
On peut aller aux élections avec ou sans machine à voter. Ça, ce serait le résultat du consensus de la classe politique. La classe politique doit dégager un consensus.
Mais dans quel cadre encore? Parce qu'il y a eu des dialogues.
On ne peut pas dégager le consensus. On doit passer par le cadre de dialogue.
Il faut un cadre légal.
Non, il y a d'autres mécanismes pour arriver à dégager. La classe politique elle-même va mettre sur pied le mécanisme pour arriver à dégager.
Prendre l'initiative de la classe politique.
Pourquoi pas? Parce que ce sont les élections des Congolais. Ça reste Congolais. C'est pourquoi j'ai dit à notre ami Pacifique, il faut parler des questions des élections sans patience, mon cher ami. Moi, je ne vous ai pas parlé de vote électronique, c'est une solution, ou bien un prêt à porter. Non, moi, je suis en train de faire une analyse sur le vote électronique, ses avantages et ses inconvénients. C'est à chacun de nous qui se situe du côté avantage, du côté inconvénient, il accepte, ou bien il rejette. Donc, on ne peut pas parler ici pour un camp, pour un autre, mais nous parlons pour le processus. Donc, ici, la solution pour nous, la solution à l'heure qu'il est dans les 8 mois moins de 8 mois qui nous reste, c'est de voir dans quelle mesure nous devons nous approprier de ce processus pour que la date du 23 décembre pour la tenue de la séquence des 3 scrutins, cette date ne puisse pas connaître encore un glissement comme nous avons connu la fois passée. Mais si nous allons toujours être dans le débat, d'être beaucoup plus radical, pour ne rien proposer, à ce moment-là, nous contribuons à la non-tenue des élections, parce que l'opposition ne peut pas aller aux élections à l'heure qu'il est, l'opposition n'a pas une santé financière, le pouvoir ne peut pas aller aux élections aujourd'hui, il doit conserver le plus longtemps le pouvoir, la communauté intéressée ne peut pas accepter que les élections aient lieu, elle n'a pas gagné le marché d'équité, ainsi de suite. Voilà toutes les trois composantes vont tenter de faire de sorte que les élections ne puissent pas être au rendez-vous en date du 23. Mais c'est de là où on va nous utiliser, nous Congolais, pour être beaucoup plus radical, plus recours à l'usage de machines. D'accord, mais trouvons une voie. Il y a un plan A et B, c'est ça la capacité d'une nation, c'est la capacité des intellectuels que nous sommes, que de parler avec passion pour le processus électoral qui est le nôtre.
Est-ce que la Linelite a déjà proposé un plan de sortie de crise?
Oui, il y a un plan de sortie de crise, mais qui n'a jamais été écouté. C'est la Linelite qui a fait le plan pour dire le 1er octobre 2015 qu'il n'y aura pas les élections en 2016, et il faut 3 ans, parce que c'était une étude technique et scientifique que les gens avaient voulu diaboliser, et maintenant tout le monde a raison, et j'avais la science, avec la science, on ne recule pas. La Linelite a déjà son plan. Quand il sera consulté, il va brandir son plan et les uns vont l'accepter, les autres vont bouder. C'est leur droit.
Jérôme Bonceau, président de la Linelite, Ligue nationale pour les élections libres et transparentes. Merci d'avoir passé 57 minutes interactives avec nous. Nous n'allons pas nous quitter sans pour autant dire merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Héritier Sidiakal a été à la mise en onde, Pierrot et la Mégie à la réalisation et Martin Sebujangu a supervisé cette émission coordonnée et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie. À très vite pour un autre numéro.